Et ce sera pas mal sous le hockey qu'on va se tenir hein, au niveau du thème de cette chronique-là avec Olivier Beauregard. Olivier, bonjour!
Salut!
Ben, on n'y échappe pas, c'est le début de saison, il y a plein d'affaires à regarder. Entre autres, tu veux revenir sur le match d'ouverture des Sénateurs d'Ottawa.
Oui, absolument, parce que ça a été, écoute, phénoménal. Chapeau à l'organisation des Sénateurs pour avoir fait un match d'ouverture de qualité, mais surtout, chapeau à l'organisation pour avoir créé un buzz en ville. C'est pas compliqué, il y avait plus de 19 800 spectateurs au centre Canadian Tire. Ça, là, pour moi, là, c'est déjà un succès. Mm-hmm. Je me rappelle, là, Sébastien, là, puis écoutez, là, c'est pas compliqué, c'est ça le comble là, pour les gens qui se demandent. Il y a à peu près ça, là, 19 900 sièges. En tout cas, donc on a appelé ça « sale comble » et c'est carrément ça. Les sièges étaient remplis. Ce que j'allais dire, c'est que moi, je me souviens, en 2017, pendant le long parcours des Sénateurs en série jusqu'à la finale de l'Est, où ils avaient perdu justement au 7e match contre les Penguins de Pittsburgh. Écoute, on était en finale de l'Est puis les bancs n'étaient pas remplis. Mm-hmm. On parlait des assistances de 13 14 000. Je parlais avec un joueur des Sénateurs d'Ottawa hier qui me disait « Écoute, c'était incroyable comme ambiance. À Ottawa, on n'a pas vu ça souvent et c'est peut-être ben, un bon signe pour ce qui s'en vient parce que les Sénateurs ont une équipe excitante, les Sénateurs ont une équipe surtout très talentueuse au niveau de l'attaque. Je pense que ça l'a vraiment carrément là, donné un deuxième souffle à l'organisation. Puis ça a fait en sorte que les gens ont décidé de se procurer un billet, ont décidé d'aller voir ce match-là. Puis écoute, ça a été tout un match de hockey. Bon, je comprends qu'il y a quand même 7 buts qui ont été marqués par les Sénateurs. Puis si je ne me trompe pas, c'est 5 ou 6 là, par les Bruins de Boston. Je ne me souviens plus nécessairement combien ça s'est terminé. Je pense que c'est 7-6. Et écoute, il y a énormément de buts. C'est pas nécessairement un match défensif. Puis c'est pas un match parfait pour les deux équipes puis pour les entraîneurs, ça c'est sûr. Mais pour les partisans, là, c'est
oui.
Une chose que tu peux avoir de plus que ça.
Ça met de l'ambiance, mettons.
Tu sais, donc non, c'est pas à l'organisation. Moi, je te le dis, je me réjouis de voir des organisations qui connaissent des succès autant au niveau sur des performances qu'au niveau du tourniquet. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on veut. Puis nous, on est chanceux là en Ottawa, là. Puis je parle de la région de la capitale nationale. On a quand même une équipe professionnelle au niveau de la Ligue nationale de hockey. On est chanceux d'avoir ça, puis ça sera pas le temps de le regretter le jour où cette concession-là va partir. Mm-hmm. Je dis pas qu'elle va partir, mais je dis qu'il y a tellement eu de rumeurs, il y a tellement eu de moments difficiles qu'à un certain moment, on a passé très, très près de la perte de cette organisation-là. On l'a. Continuons à l'appuyer, puis c'était vraiment, vraiment beau de voir ça. Écoute, c'était aussi brillant que le Centre Bell. Là. C'était pas compliqué, et je pense que c'est le beau mélange de gens du Québec, gens de l'Ontario rassemblés ensemble derrière une équipe, ça a fait vraiment des flamèches. Alors, chapeau à l'organisation.
On espère, on leur souhaite à tout le moins que ça se poursuive pendant la saison.
Ben oui, absolument.
Début de saison également pour le Canadien. Tu voulais revenir sur les derniers matchs qui ont eu lieu.
Oui, exact. Mais parce que le Canadien de Montréal a connu un départ assez intéressant contre les Leafs de Toronto. Mm-hmm. Après ça, bon, évidemment, il y a eu des matchs plus difficiles. Je pense au match contre les Red Wings de Détroit. Je dis plus difficile. Ce match-là s'est terminé finalement par des buts en filet désert, là, 2 buts. Et ça n'a pas été le grand match de l'équipe, mais ça n'a pas été nécessairement un mauvais match. Le lendemain, par contre les Capitals de Washington, on a senti que le Canadien était, ben, disons, n'était pas de taille, disons ça comme ça. Par contre, moi, je suis le premier surpris. Les Penguins de Pittsburgh débarquent en ville. Le Canadien l'emporte. Match quand même très convaincant. Kaiden Goulet est phénoménal. Moi, je vous le dis, mesdames et messieurs, là, Kaiden Goulet, là, ça va être un défenseur de premier plan dans la Ligue nationale. On a souvent critiqué les choix de Trevor Timmins avec le Canadien de Montréal, avec les gens qu'il a sélectionnés. C'est drôle, Kaiden Goulet, là, ça pourrait être un vol au rang où il a été sélectionné. Moi, je pense que c'est un des défenseurs, ben, c'est très certainement le meilleur défenseur de sa QV, mais je pense que c'est un des défenseurs qui pourrait un jour à Montréal remporter le fameux trophée Norris, le trophée qu'on remet au meilleur défenseur de la Ligue à la fin d'une saison. Moi, je pense que Kaiden Goulet pourrait le remporter. Puis comme je vous dis, c'est un choix de premier tour du Canadien de Montréal, mais il a quand même été sélectionné 16e au total. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui ont levé le nez sur lui. Moi, je suis vraiment content que le Canadien de Montréal puisse compter sur un défenseur gaucher comme ça, physique imposant. Il y a le flair à Shea Weber, tout le monde le dit. Il y a son calme également. Alors moi, je pense qu'on a une future star à en devenir. Puis parlons également de Cole Caulfield qui continue à marquer des esprits. Ce gars-là, dans son... Tu sais, je m'emballe pas trop parce que c'est un début de saison, puis on le sait que ça sera pas parfait à Montréal. Puis s'ils font les séries, là, moi, je pense qu'ils les feront pas, honnêtement. Mais s'ils font les séries, ça va être par la peau des fesses, comme on dit. Mm-hmm. Mais Cole Caulfield, ça reste un joueur électrisant, là, je veux dire... c'est peut-être le prochain joueur qui peut aller chercher un 40-50 buts chez le Canadien de Montréal. Je dis pas cette année, mais dans les années à venir. Donc, tant mieux, il va falloir continuer de l'entourer de la bonne façon. Mais tu sais, il y a un vent de renouveau, un peu comme chez les Sénateurs d'Ottawa. On sent qu'on l'accepte, cette étape de reconstruction-là, là. Puis on se dit, savez-vous quoi, allons nous amuser, allons voir les jeunes se développer. Puis on peut avoir des fois des belles surprises, des bons spectacles. Et c'est ce que ça a donné contre les Penguins de Pittsburgh, c'est ce que ça a donné contre les Leafs de Toronto. Et ce soir, ben, le Canadien affronte les Coyotes de l'Arizona, l'équipe d'André Tourigny, une équipe qui cherche aussi, qui ont quand même réussi à battre les Leafs, eux autres aussi, mais qui vont quand même débarquer au Centre Bell ce soir avec des joueurs importants qui ne seront pas dans leur alignement. Alors le Canadien pourrait quand même avoir une fiche intéressante après le match de ce soir. Puis ça, ben, ça pourrait juste être inspirant pour l'équipe d'ici à la fin de la saison. Je veux dire, c'est très tôt, là, mais c'est pas un départ catastrophique comme tout le monde s'attendait. Le Canadien a quand même des gens derrière eux. On a l'impression que cette équipe-là s'en va dans une direction assez convaincante. Alors ça, je pense que c'est un autre coup de chapeau qu'on peut donner à l'organisation du Canadien.
Mais tu dis, j'ai l'impression qu'on accepte cette espèce de période de transition, ouais. Mais je pense qu'on l'accepte parce que l'équipe l'assume. J'ai comme l'impression que dans les dernières années, oui, il fallait refaire des affaires, mais on l'assumait pas trop, puis on essayait de par la bande de mettre des plasters, puis d'arranger de quoi sans que ça paraisse trop. Là, on l'assume, c'est ça, puis il faut se reconstruire.
C'est tellement vrai, là. Écoute, c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que combien de fois on est allé chercher des joueurs de soutien ou des joueurs pour venir, justement, comme tu dis, patcher des trous. C'est moi l'angliciste, là, mais c'est exactement ça. Rappelez-vous que ce que Marc Bergevin avait dit, c'est pas une reconstruction, c'est un reset. Rappelez-vous de tout ça, parce qu'on voulait à tout prix éviter le mot reconstruction. Ben, pour vrai, Sébastien, t'as tellement raison, puis c'est exactement ça. C'est assumé par Kent Hughes, c'est assumé par Jeff Gorton, par Jeff Molson, tant mieux. Pis je pense que les partisans embarquent justement dans cette reprise-là, dans ce renouveau-là. Puis là, on est prêt à passer par la phase de reconstruction en espérant que ça va amener l'équipe en quelque part d'ici 5 ans.
Continuons encore un peu dans le hockey. Ils ont amorcé la saison avec le Canadien, les Leafs de Toronto. Eux aussi, tu voulais jeter un coup d'œil sur ce début de saison-là qui est peut-être pas celui tant espéré, là.
Écoute, c'était déjà une chose pour l'organisation de perdre contre le Canadien. Ça a été une autre chose de perdre 4-2 lundi contre les Coyotes de l'Arizona. Tu sais, les Coyotes aussi, c'est une équipe en reconstruction. Et les Leafs de Toronto, c'est une équipe qui est à maturité. C'est une équipe qui, ça fait 2 ans à peu près, qui devrait gagner la Coupe Stanley. Ça n'a pas été vraiment un grand match des canons là, des Leafs de Toronto. Puis je te dirais que les Maple Leafs, depuis le début de la saison, montrent des signes un peu inquiétants. T'sais, mettons que tu es partisan des Maple Leafs, tu te dis « OK, on a-tu une chance cette année d'avoir de bonnes performances en séries éliminatoires? On va-tu encore se faire éliminer en première ronde? » Écoute, cette équipe-là, ça fait des années et des années qu'ils n'ont pas passé le premier tour des séries, ce qui est, selon moi, l'insulte à l'injure, parce que c'est une équipe qui a tellement de talent, c'est une équipe qui est dans toutes les positions presque. Là,
ouais, sur papier, ça marche, là.
Ben, c'est ça, exact, mais on dirait qu'on n'est pas capable de concrétiser en série. Et Sheldon Keefe, cette semaine, l'entraîneur-chef des Leafs de Toronto, qui va dire avant les Coyotes, la différence entre nous et l'Arizona, c'est que nous, on a des joueurs élites. Il avait déclaré ça en avant-match.
Ouais, c'est ordinaire.
Ben, écoute, la raison pour laquelle je vous parle de cette citation-là, c'est parce que ça vient un peu démontrer c'est quoi le problème au niveau de cette équipe-là. C'est qu'on a toute l'impression qu'ils disent ça. On est bon, on est beau, on est fort. Puis finalement, ils se font surprendre par des équipes qui travaillent. Parce que je pense que le mot qui manque dans le vestiaire des Leafs, c'est le travail. On compte trop sur notre talent, on compte trop sur nos aptitudes. Puis finalement, cette équipe-là a perdu contre les Coyotes. À Toronto, on demande déjà la tête de Sheldon Keefe, on demande déjà la tête de Carl Dubus, qui est le directeur général. Écoute, honnêtement, là, c'est déjà le piton d'alarme là-bas. Ça me fait penser, puis tu sais, je vous parle souvent du marché montréalais, mais le marché du côté de Toronto est tout si pire, sinon plus. Alors là-bas, on est déjà en mode, faut qu'on change le bateau de côté, faut revirer la situation. Puis je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais chose certaine, les Leafs vont devoir rendre des comptes, puis Sheldon Keefe va devoir se mettre à gagner s'il veut garder son poste derrière le banc.
Ça aussi, ce sera un truc à surveiller. Je pense qu'on va s'en reparler des Leafs au fil des prochaines semaines.
Oh oui, monsieur. Ça me fait toujours plaisir de parler des Leafs.
Et on va terminer cette chronique, Olivier, en parlant football de la NFL, faire un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé et ce qui s'en vient en fin de semaine.
Oui, absolument. Bien, d'abord, ce qui s'est passé la fin de semaine dernière, c'est des surprises. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a eu des matchs très inspirant. Par contre, tu sais, quand on pense justement à la confrontation entre les Bills et les Chiefs de Kansas City, moi, j'ai trouvé que c'était... Moi, j'ai regardé ce match-là avec grand intérêt parce que les Bills, ben, j'ai un parti pris, mais reste que c'est une confrontation entre Josh Allen et Pat Mahomes, et ça a été tout un match de football. Ça s'est terminé à la toute fin. La défensive a fait la différence de part et d'autre. Moi, j'ai adoré ce match-là, mais il y a eu beaucoup de surprises. Il y a eu des gens qui ont sûrement perdu énormément d'argent parce que on n'avait pas parié dans cette direction-là. Mais ça a été un gros week-end de NFL. Sauf que là, ce qui s'en vient en fin de semaine et ce qui, moi, va m'intéresser beaucoup, d'abord, qui est un lien direct avec le week-end dernier, c'est le retour de Tom Brady. Pas le retour, mais plutôt ce que Tom Brady va offrir comme performance en fin de semaine. Parce que, c'est pas compliqué, Tampa Bay, en ce moment, connaît des difficultés, je vous en ai parlé. On a un Tom Brady qui a de l'air enragé et ça n'a pas été différent le week-end dernier. Écoute, Tom Brady, premièrement, les Buccaneers ont perdu, mais Tom Brady a publiquement ramassé sa ligne à l'attaque encore une fois, chose qu'il a fait peut-être un petit peu trop souvent là, pour le début de saison. Ça me ramène à vous dire que moi, j'ai peur que ça soit la saison de trop pour lui. J'ai peur qu'on se dise qu'il aurait dû prendre sa retraite puis rester à la retraite.
Qu'il l'avait pris sa retraite, ça n'a pas duré longtemps, mais il l'avait pris.
Exactement. Mais j'ai hâte de voir comment il va rebondir en fin de semaine, plutôt comment l'équipe va rebondir après ça, parce que là, ça fait plus qu'une fois que Tom Brady crie après ses joueurs cette année. C'est pas quelque chose qui nous a habitués et c'est des signes un petit peu inquiétants si j'étais un partisan des Buccaneers de Tampa Bay. Alors, à suivre en fin de semaine. Et évidemment, un des retours qu'on attend, que tout le monde a hâte de voir, puis en même temps qu'on est un peu inquiet, c'est le retour du corps arrière des Dolphins de Miami, Tua, qui, lui, avait quitté là, Tagovailoa, qui avait quitté, lui, après une commotion cérébrale, rappelez-vous. Ça avait été fait dans la tourmente où on n'avait pas nécessairement protégé le joueur, on n'avait pas dit qu'il était atteint d'une commotion cérébrale, on l'avait laissé jouer. Écoute, on dit qu'il est prêt à revenir aux jeux en fin de semaine. Ça devrait se passer dimanche. Moi, je vais regarder ça d'un œil assez assez intrigué parce que, bon, je comprends que c'est contre les Steelers de Pittsburgh. C'est pas une équipe qui connaît beaucoup de succès. Les Steelers, par contre, tu vois, c'est quand même un gars qui s'est blessé gravement, qui a semblé être, en tout cas, avoir subi un choc. Là. Rappelez-vous, c'est ses doigts qui étaient
cassés. Oui, oui.
J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qu'il va avoir de l'air après un premier contact.
Ben non, parce que même s'il est prêt, c'est ça. Il a beau être prêt là, sur papier puis tout ça, puis il a fait les tests, mais s'il faut qu'il se fasse ramasser, là, solide, là,
c'est... Ben, toi, souvent, là, c'est plate, là, mais c'est le premier contact qui va nous dicter un peu, qui va soit nous dire « OK, on est soulagé » ou « OK, il y a quelque chose à s'inquiéter ». Alors, on va le voir en fin de semaine, dimanche. Je pense que c'est un match qui va être intéressant à regarder. Puis les partisans des Dolphins de Miami, là, eux autres, ils se croisent les doigts. Ça, je te le dis, ils se croisent les doigts pour que Tua revienne en santé, parce que eux, depuis le départ de leur corps arrière, ils ont une saison, disons, des matchs atroces qui ont été disputés. J'espère pour eux qu'on va être capable de revirer la situation.
Bon, ben on jettera un coup d'œil à tout ça. Olivier Beauregard, un grand merci pour ton temps cet après-midi. On se retrouve jeudi prochain.
Un plaisir. Merci, mon ami.